à Tire-d'Aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mahler en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux, une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, nous découvrons ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette deuxième chronique, Frédéric Mahler nous livre plusieurs conseils pour aider les oiseaux en cette période hivernale. Mettre à disposition des graines, des boules de graisse, oui, ou encore mieux, planter des fleurs et des arbustes. En somme, comment aménager son territoire pour fournir aux oiseaux des sources de nourriture et des abris. Voilà ce que va nous raconter tout de suite Frédéric Mahler. Alors, écoutons À Tire-d'Aile, saison 1, épisode 2, comment aider nos amis à plumes en cet hiver, une chronique de Frédéric Mahler de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Bonjour à tous. L'hiver approchant, beaucoup d'entre vous songent, pour les aider à passer la mauvaise saison, à mettre à la disposition des oiseaux des graines ou des boules de graisse. Cependant, pour paraphraser un proverbe célèbre, « Donne des graines à un oiseau, il mangera un jour. Plante-lui des fleurs et des arbustes, il mangera toute sa vie. » Je vais vous parler aujourd'hui des aménagements qu'on peut faire pour aider les oiseaux, qu'on soit propriétaire d'un jardin, d'un terrain plus important ou exploitant agricole. L'échelle de grandeur varie, mais les principes restent les mêmes. Il faut fournir aux oiseaux et aux autres animaux des sources de nourriture et des abris. Beaucoup de petits oiseaux sont insectivores. Il faut donc prioritairement favoriser le développement des insectes en recherchant la plus grande variété de plantes. En effet, beaucoup d'insectes sont assez spécialisés et ne peuvent se développer que sur une ou quelques espèces de plantes. L'aurore est un très joli petit papillon qui apprécie la lunaire ou monnaie du pape, alors que la chenille du pan du jour se nourrit d'orties. La colette est une petite abeille spécialisée dans les fleurs de lierre, alors que la capucine attire fortement les pucerons. Cela favorisera aussi, par contre-coup, les insectes prédateurs, comme la coccinelle qui est très friande de pucerons. Cette multiplication des insectes favorisera la pollinisation de nombreuses plantes et limitera aussi le nombre de certains insectes ravageurs. Cela nourrira par la même occasion les mésanges, rouge-gorge et autres fauvettes qui sont insectivores, mais aussi les jeunes moineaux, pinsons ou verbiers que leurs parents nourrissent d'insectes, même si eux sont granivores. Pour ces granivores, il faut aussi prévoir des plantes qui leur fourniront de quoi se nourrir. Le tournesol, en plus d'être une superbe fleur, fournit en fin d'été des graines dont raffolent des tas d'espèces. Dans un coin du jardin, vous pouvez aussi laisser pousser des chardons, carottes sauvages et renouées des oiseaux. Les chardonnerets linottes et moineaux vous remercieront. En tout cas, choisissez des espèces locales et des variétés fertiles, capables de produire du nectar et du pollen, et d'être consommées par les insectes. Les plantes exotiques n'ont en général pas ou peu de consommateurs et ne nourrissent donc pas grand monde. En automne, beaucoup d'oiseaux migrateurs font des réserves avant de partir, ou les renouvellent en cours de route grâce aux baies et autres petits fruits qu'ils peuvent rencontrer. C'est là que vous pouvez aussi intervenir. Tout particulièrement en ce moment, période la plus favorable à la plantation d'arbustes. Choisissez donc là aussi des espèces locales, comme l'églantier, l'aubépine, le sureau, le fusain, le cornouiller et autres viornes et prunelliers. Favorisez aussi le lierre grimpant, la plante miracle pour la biodiversité. Il fait ses fleurs assez tard, ce qui fournit du nectar à des nuées d'insectes pollinisateurs en fin d'été, quand il n'y a plus beaucoup de fleurs, et il fait ses fruits au cours de l'hiver, permettant aux oiseaux de faire la jointure avec le retour du printemps. Et en plus, ses feuilles persistantes fournissent en hiver un abri aux dortoirs de moineaux et aux merles. Ce qui est vrai à l'échelle du jardin, l'est aussi à l'échelle des exploitations agricoles. Il faut favoriser le maintien de zones enherbées et fleuries et maintenir ou replanter des haies. Il disparaît chaque année en France 20 000 km de haies, alors qu'elles sont un auxiliaire de l'agriculture en limitant le vent et l'écoulement intempestif des eaux de surface et en abritant les oiseaux prédateurs des ravageurs des cultures. L'une des causes principales de l'effondrement de certaines espèces d'oiseaux des milieux agricoles, avec l'utilisation massive de pesticides, est l'uniformisation des paysages par disparition des haies et des zones humides. Par exemple, le moineau friquet, cousin rural du moineau domestique, a perdu plus de 99% de ses effectifs franciliens en 30 ans. La LPO Île-de-France en a fait un de ses combats emblématiques. Après avoir localisé certaines de ses colonies restantes, la LPO essaye de leur fournir des haies en espérant ainsi empêcher leur disparition. Nous travaillons donc en collaboration avec les propriétaires ruraux ou les communes en organisant des chantiers de plantation de haies. Des prochains auront lieu le 30 novembre à Tremblay en France et en décembre à Trilport près de Meaux. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous sur le site de la LPO Île-de-France. Dans la rubrique « Devenez bénévole », vous verrez un lien vers les chantiers nature. Chaque mois, je vais vous parler d'une espèce d'oiseau commune pour vous aider à mieux la connaître et vous indiquer comment lui faciliter la vie autour de chez vous. Aujourd'hui, je vous présente le rouge-gorge. En ce mois de novembre, les parcs et jardins sont assez silencieux. On n'y entend plus guère de chants d'oiseaux. C'est logique, car les chants sont destinés à attirer une femelle et marquer son territoire de reproduction. C'est pourquoi on les entend principalement au printemps. Cependant, il y a un oiseau qu'on entend presque toute l'année, c'est le rouge-gorge. Après la pause estivale, il recommence à chanter dès le mois de septembre et on va l'entendre tout l'hiver. En effet, il défend aussi un territoire à cette période et en plus, il doit le défendre contre des concurrents qui arrivent de plus au nord pour passer la mauvaise saison chez nous. C'est pourquoi son chant cristallin va égayer nos journées d'hiver, même les plus froides. Cet oiseau, si vous avez un jardin, vous l'avez déjà vu venir se planter à quelques mètres de vous pendant que vous bêchez, histoire de récupérer les petits animaux que votre travail pourrait déranger. Ce n'est pas pour rien que son nom complet en français est rouge-gorge familier. Cependant, il y a un peu tromperie sur la marchandise. Sa gorge n'est pas rouge. C'est le bouvreuil qui a vraiment une poitrine rouge. Lui, il l'a plutôt orange. Son nom portugais est d'ailleurs beaucoup plus juste, puisque de peito ruivo, l'oiseau a la poitrine rousse. C'est donc une petite boule brunâtre, avec la poitrine orange et un œil noir qui le rend immédiatement sympathique. Fièrement campé sur ses pattes, il se déplace souvent en sautillant au sol pour trouver sa nourriture ou se montrer pour dissuader un concurrent de s'approcher. Son bec fin montre un régime alimentaire insectivore. Il recherche les invertébrés dans la litière de feuilles mortes ou la terre fraîchement retournée. En hiver, il apprécie aussi les graines et les petits fruits qu'il va trouver dans les buissons ou sur les arbustes. En revanche, il n'aime pas l'agitation de la foule. Il vient donc rarement sur les mangeoires, mais il surveille les miettes qui en tombent pour aller prestement les récupérer. Nos rouges-gorges passent en général la mauvaise saison chez nous, mais ceux du nord de l'Europe migrent pour atteindre la France, voire même traverser la Méditerranée. À cette saison, on le trouve facilement. Il lui suffit d'un peu de verdure et de feuilles mortes ou fouillées, et de buissons où s'abriter. Il vient donc aisément dans les jardins, même en ville, au pied des immeubles pour peu qu'ils soient végétalisés, ou dans les squares. Mais pour se reproduire, il est un peu plus exigeant et va souvent se replier dans les bois et les zones de bocage. En ville, il préfère de beaucoup les grands parcs, mais à la campagne, il peut rester dans les jardins. Il fait son nid dans les buissons près du sol. C'est une boule d'herbe et de feuilles mortes qu'il est difficile de distinguer de la végétation. Il va y faire en général deux ponts de 5 à 6 œufs que la femelle couve environ 15 jours. Puis le couple nourrit les jeunes au nid, 2 semaines environ, ainsi que les premiers jours après l'envol. Les premières semaines, les jeunes n'ont pas la poitrine orange, mais sont tout bruns, pointillés de beige, avant de prendre l'aspect adulte pendant l'été. Comme tous les petits passereaux, le rouge-gorge est protégé par la loi et il est interdit d'en capturer. Cependant, ce qui menace le plus notre rouge-gorge, c'est l'usage des pesticides et la destruction de son milieu de vie. Donc, oubliez l'usage de produits chimiques dans votre jardin, en plus ce sera bon pour votre santé. Ne taillez pas non plus vos haies, arbustes et buissons au moment de la reproduction, entre mars et juillet. Votre récompense sera de revoir votre rouge-gorge familier lors de vos travaux de jardinage. À bientôt pour parler d'une nouvelle espèce d'oiseau. Et en attendant, bonnes observations à tous.